Radio Prague, les informations. Bonjour, l'ambassadeur tchèque auprès de l'Union européenne a été révoqué. Le ministère des Finances a revu à la hausse son estimation du taux de croissance économique pour 2007. Et enfin, le nombre de voitures construites en République tchèque au cours du premier semestre a encore augmenté. Le gouvernement a décidé de rappeler l'ambassadeur tchèque auprès de l'Union européenne, Jan Koroth, en raison de la présidence tchèque de l'Union européenne au cours du premier semestre 2009. Le mandat de Jan Koroth devait s'achever en mai 2008, mais le cabinet de Mirek Topolánek a décidé qu'il quitterait son poste encore avant la fin de cette année, et ce afin que son successeur ait le temps de s'adapter à ses nouvelles fonctions. L'opposition a déjà critiqué cette décision. Les sociaux-démocrates, principal parti de gauche du pays, soulignent ainsi que Jan Koroth est un excellent diplomate et que le gouvernement n'a aucune raison valable de le limoger. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, du Parti des Verts, a réagi en faisant savoir qu'il était satisfait du travail accompli par Pavel Koroth, mais qu'il respectait néanmoins la décision du Premier ministre et du vice-premier ministre chargé des Affaires européennes, Alexander Vondra, de choisir un nouvel ambassadeur tchèque auprès de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie considère comme indispensable un bon fonctionnement de la collaboration entre la représentation permanente du pays à Bruxelles et le bureau d'Alexander Vondra, principal garant des préparations de la présidence tchèque. Le ministère des Finances a revu à la hausse son estimation du taux de croissance économique pour 2007, en le faisant passer de 5,3 à 5,8%. En 2008, la croissance devrait cependant quelque peu ralentir et se situer autour de 5%. Tels sont les principaux enseignements qui ressortent d'une nouvelle étude macroéconomique dont les résultats ont été publiés mardi par le ministère. Cette étude prend en considération le projet de réforme des finances publiques actuellement débattu au Parlement. En 2006, la République tchèque avait affiché un taux de croissance record de 6,4%. Le nombre de voitures construites en République tchèque au cours du premier semestre de cette année s'est élevé à près de 480 000, soit une augmentation de 6,2% par rapport à la même période en 2006. Le nombre de voitures exportées a lui aussi augmenté, et ce de 9,4% pour passer à près de 440 000. Ces chiffres ont été rendus publics mardi par l'Association de l'industrie automobile. Avec 318 000 véhicules sortis de ces usines depuis le mois de janvier, soit 9% de plus par rapport à l'année dernière, c'est le constructeur Škoda Auto qui a contribué le plus à cette augmentation globale. Météo, après la grisaille qui a régné sur l'ensemble du territoire, mardi, le soleil se fait plus présent ce mercredi et notamment dans le courant de l'après-midi. Les températures sont en légère baisse et se situent entre 20 et 24 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Notre magazine d'actualité commencera aujourd'hui par le litige qui oppose l'État tchèque à la banque ČSOB, banque commerciale tchécoslovaque, un sujet présenté par Václav Richter. Nous nous intéresserons aussi au début de l'été particulièrement tragique sur les routes tchèques, cela un an après l'entrée en vigueur pourtant d'un code de la route beaucoup plus sévère. Alexis Rosenzweig continue sa série sur les bons et les mauvais côtés du tourisme en Tchéquie. Et Anna Kubishta nous fournira les dernières nouvelles sur l'école d'été du cinéma qui se poursuit en Moravie, à Uherské Hradiště. Nous vous souhaitons tous très sincèrement de passer d'agréables moments en notre compagnie sur les ondes de Radio Prague. Le ministre tchèque des Finances a porté plainte auprès du tribunal d'arbitrage de Paris contre la ČSOB, banque de commerce tchécoslovaque. Cette dernière, en effet, devrait payer à l'État, selon le ministère, presque 27 milliards de couronnes, presque 970 millions d'euros. En même temps, le ministère a refusé de payer à la ČSOB 1,7 milliard de couronnes pour honorer une des transactions liées avec la prise en possession de la IPB, banque des postes et des investissements, ayant fait faillite il y a 7 ans. Václav Richter.
L'IPB a été fondée en 1990. Elle est devenue en quelques années un des établissements financiers les plus importants de la République tchèque. Sa prospérité n'a pas été longue et dès l'année 2000, elle a été mise sous séquestre par la Banque nationale et finalement a été achetée pour un prix symbolique d'une couronne par la ČSOB. Pour assainir les finances de la IPB, l'État s'est engagé à la débarrasser des mauvais crédits, opération qui a coûté aux contribuables plus de 150 milliards de couronnes, quelque 5,4 milliards d'euros. Aujourd'hui pourtant, la ČSOB demande à l'État encore 1,7 milliard de couronnes pour le recouvrement d'une vieille créance de la IPB. Le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, estime que l'État a déjà assez payé et rend à la ČSOB le coup en lui demandant 27 milliards.
Des garanties relativement généreuses ont été accordées à la ČSOB par le cabinet Miloš Zeman, sous condition que la banque paierait tout le déficit de la IPB jusqu'au moment de la prise en charge. Cela voulait dire que la valeur de la banque assainie serait zéro. Jusqu'à présent, l'État a versé plus de 150 milliards de couronnes à la ČSOB pour accomplir les accords sur ces garanties. Nous sommes donc convaincus que ce qui a été payé au-dessus du zéro devrait être restitué à l'État.
Selon le ministère, la IPB a eu au moment de la prise en charge une valeur beaucoup plus élevée qu'on ne pensait et la ČSOB doit donc restituer à l'État une partie de la somme investie. La direction de la ČSOB et le propriétaire belge de la banque, le groupe KBC, soulignent cependant que le soutien financier que la ČSOB a obtenu pour sauver l'établissement en faillite était conforme à la loi. Ils protestent aussi contre ceux qui les accusent d'avoir tiré un profit illégitime du rachat de la IPB. Le ministre Miroslav Kalousek rappelle qu'il a proposé il y a quelques semaines à la ČSOB la variante zéro, projet qui engagerait les deux parties à annuler leurs revendications mutuelles. Cette initiative étant restée sans réponse, le ministère est passé à la contre-attaque. Le projet de cet accord à l'amiable est cependant toujours d'actualité. On attend maintenant la réaction des experts de la ČSOB.
Alors qu'au mois de juillet 2006, les routes et autoroutes tchèques avaient été plus calmes, avec un nombre moins important de victimes de la route, un an plus tard, le premier mois des grandes vacances se présente comme l'un des plus meurtriers, avec déjà 89 morts sur les routes tchèques. Il semble que la perspective de perdre son permis de conduire, après avoir totalisé 12 points de pénalité pour diverses infractions au code de la route, ne fait plus peur aux automobilistes tchèques. Les autorités policières sont arrivées à la triste constatation que ce sont toujours les mêmes infractions qui sont les plus fréquentes. Excès de vitesse, refus de priorité, dépassement dangereux et, ces derniers temps, une recrudescence des accidents mortels causés par de jeunes conducteurs qui ne maîtrisent pas encore assez le volant. Le bilan de la semaine dernière est des plus éloquents. 32 victimes de la route. La comparaison avec la même période en 2006 confirme aussi cette tendance, 61 victimes de plus en juillet 2007 qu'en 2006. Pour les autorités policières, il semble indispensable que les forces de police, tous corps de police sont confondus, soient encore plus présentes sur les routes et autoroutes tchèques. Il ne s'agit plus de poster des agents de police là où les automobilistes se rendent coupables d'infractions mineures. Il faut contrôler la circulation là où les conséquences des infractions peuvent être plus graves, voire mortelles. Donc, sur les autoroutes, en cas de travaux, sur les tronçons où la vitesse est limitée et dans tous les endroits où il existe un danger potentiel d'accident. Les spécialistes de la sécurité routière sont unanimes. Le bilan tragique de ce mois de juillet est le résultat d'un nombre insuffisant de policiers sur les routes et d'un code de la route imparfait. Mauvais exemple aussi, d'après les mêmes spécialistes, les infractions au code dont se rendent coupables certains représentants des pouvoirs publics. Stanislav Hummel, ancien chef de la police de la route de la région de la Bohême centrale, est expert en circulation routière et persuadé que le climat que la Tchéquie a vécu au mois de juillet est responsable d'une grande partie des accidents sur les routes tchèques. En effet, beaucoup d'automobilistes oublient qu'en été, une route ou autoroute sèche se couvre de poussière. Il suffit d'une averse, d'un violent orage, pour que la chaussée se transforme en patinoire, avec toutes les conséquences possibles, sortie de route ou aquaplaning. Stanislav Roumal, et il n'est pas le seul, reproche aussi au nouveau code de la route de seulement pénaliser les usagers de la route en Tchéquie. Il devrait aussi les former, les préparer à des situations inhabituelles. L'automobiliste peut perdre son permis de conduire quand il totalise 12 points. Il repasse son permis, du moins une partie de l'examen, mais se retrouve dans la même situation. Il ne sera que pénalisé, en aucun cas l'objet d'une formation pour mieux se conduire sur les routes ou les autoroutes, pour qu'il n'y ait pas autant de victimes. Il est intéressant de constater que l'introduction du permis de conduire à points en Europe s'est soldée par de très bons résultats, alors que ce n'est pas le cas du tout en République tchèque. Cet été, Radio Prague vous propose une série sur les touristes de passage dans la capitale tchèque. Ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, leurs endroits préférés ou encore les cadeaux qu'ils achètent ici pour leur famille. Ils nous disent tout ça et plus encore. Aujourd'hui, Alexis Rosenzweig a interrogé deux touristes avec un bel accent.
Je suis Marco Burel et je viens de Montréal, Canada.
Depuis combien de temps êtes-vous arrivé à Prague ?
3 jours.
Alors en 3 jours, qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce qui vous a le plus plu ici?
Ce que j'ai vu, c'est un petit peu trop long à énumérer. J'ai marché à peu près tout ce qu'il y avait à marcher dans la ville de Prague.
Par cette chaleur?
Oui, par cette terrible chaleur. Du château jusqu'à Nové Mesto, jusqu'à Malastrana, jusqu'à la Municipal House et puis...
La fin de la ligne C,
même en fait de métro. Nous sommes allés jusque-là pour aller voir les quartiers résidentiels aussi. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu, je pense que l'architecture en général est assez phénoménale. Il y a un grand potentiel de... Il y a eu beaucoup de travaux de restauration, puis je crois que ça va être assez magnifique, mais en cours de route encore plus. C'est tellement beau partout. L'art nouveau partout ici, c'est vraiment extraordinaire aussi. C'est une des rares villes où on peut en voir autant. Et puis, le Municipal House, c'est absolument magnifique. C'est un trésor à conserver, c'est sûr.
La maison municipale.
La maison municipale, oui.
Et c'est ça qui vous a le plus plu? Est-ce qu'il y a un autre endroit qui vous a particulièrement marqué? Je ne sais pas, un musée, un café, un restaurant?
Je ne sais pas, j'en ai trop fait. Non, mais c'était très beau partout. On a beaucoup aimé.
Qu'est-ce qui vous reste à faire? Alors maintenant, vous restez encore combien de temps?
Là, on repart demain. Alors maintenant, c'est vraiment limité. On va aller voir les restaurants ce soir. On va aller faire un café, un grand café sur Nirodny.
Naronichida.
Oui, voilà, juste au coin. Là, on s'en va là. On s'en va luncher là pour aller découvrir un autre café Art Déco. Et puis, après ça, ce soir, on ne sait pas. On va souper dans le coin ici. Là, dans le petit... Nous, on habite juste en arrière de la grande église Tin. On est juste en arrière. On a loué un appartement là. En fait, nous, ici, notre mode d'hébergement, c'était les appartements.
Tout près de la place de la vieille ville?
Oui, juste à côté. 2 minutes, 1 minute et demie à pied. C'est vraiment très bien.
Alors, est-ce qu'il y a des côtés négatifs dans le tourisme à Prague que vous avez pu remarquer depuis que vous êtes là?
Peut-être que dans Venceslav Square, c'est un peu le soir, ça se rapproche un peu du zoo. Il y a beaucoup de gens qui nous forcent des billets de toutes sortes de choses et surtout les cabarets de danseuses, on n'est vraiment pas intéressé quand on arrive à Prague pour nous, évidemment, mais je pense que la ville de Prague est dans une période extrêmement pleine d'énergie et pleine de débordement dans tous les sens, donc c'est peut-être un peu inévitable, mais ça, on a trouvé ça moins intéressant. Le premier soir qu'on est arrivé, c'est là qu'on est allé pour aller voir le musée et pour aller voir le périmètre du musée, et ça nous a un peu déçus, là, toute cette faune. Et puis voilà.
Qu'est-ce que vous allez ramener au Québec avec vous de Prague?
D'extraordinaires photos. Et on essaie de trouver des cadeaux. Mais ça, c'est difficile.
Alors, je vais demander à votre partenaire qui est là si lui, il a remarqué des côtés négatifs à Prague dans le tourisme.
Oui, mis à part la première journée avec les offres pour les bars de danseuses, il y a aussi de se faire forcer les concerts. Toujours, venir voir notre concert et tout. Donc
devant la maison municipale, d'ailleurs,
entre
aussi.
Entre autres, mais il y en a partout. Toutes les églises et tout. Là, c'était beaucoup trop. Et c'est difficile d'évaluer la qualité de ces concerts. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, est-ce que c'est un concert, est-ce que c'est une trappe à touristes ou c'est un bon concert? Donc, c'est très difficile. Donc, c'est ce côté-là. Là, que j'aime pas me faire obliger d'acheter quelque chose.
Tous les ans, la petite ville de Uherské Hradiště, dans l'est de la République tchèque, plus exactement en Moravie du Sud, est le théâtre de l'école estivale du cinéma. Notre collègue, Anna Kubišta, est sur place. Alors Anna, quel est le film qui a attiré ton attention à Uherské Hradiště?
Je vous parlais lundi de Mika Kaurismäki, le frère du réalisateur Aki Kaurismäki, finlandais, et qui vit depuis les années 1990 au Brésil. Eh bien, j'ai pu constater par moi-même que, décidément, le talent est de famille. J'étais à la projection de son film documentaire « Tigrero », le film qui n'a jamais été réalisé. C'est le titre. Imaginez un grand réalisateur hollywoodien des années 50, Samuel Fuller, toujours en forme malgré son grand âge, et le réalisateur indépendant Jim Jarmusch, partant ensemble en expédition dans la jungle brésilienne sous les traces d'un film, « Tigrero », donc ce film qui n'a jamais été tourné. Pour préparer ce film d'aventure hollywoodien, Sam Fuller s'était à l'époque rendu dans un village indien et il avait rapporté des images étonnantes de ce village. Plus de 40 ans plus tard, le duo Fuller-Jarmusch se rend donc dans ce même village où il montre aux habitants les images tournées à l'époque. Les villageois reconnaissent des proches, des personnes décédées il y a longtemps. Et le spectateur découvre que malgré une certaine occidentalisation, les traditions ancestrales y demeurent. En tout cas, une chose est sûre, le ton du film est très juste, émouvant sans être de pathos, et surtout, le film est de part en part traversé par l'humour des deux réalisateurs.
Et dis donc, Anna, pourquoi le film n'a jamais été tourné alors ?
Une raison plutôt banale et absurde, Alain, en fait, deux grandes stars devaient avoir le rôle titre, c'était Ava Gardner et John Wayne, et aucune compagnie d'assurance à l'époque n'a voulu prendre le risque d'assurer le film. En tout cas, comme l'a justement indiqué Mika Kaurismäki avant la projection, après tout, le film a bel et bien été tourné, et cela grâce à lui.
Uherské Hradiště, une dernière question à Anna Kubišta. Quels autres thèmes sont abordés par ce festival ?
Alors, il faut d'abord rappeler que l'école d'été de cinéma de Uherské Hradiště n'est pas vraiment un festival. Elle a vocation à instruire, à faire découvrir des films. C'est pourquoi on trouve à la fois des films inédits, en tout cas en République tchèque, mais aussi des films qui sont déjà sortis au cinéma, je pense, notamment aux films tchèques qui sont présentés et qui sont déjà sortis en salle, hein, ou à quelques classiques, grands classiques comme Paris, Texas de Wim Wenders. Mais sinon, un des autres thèmes abordés par cette troisième édition, c'est l'homme et la vieillesse, mais aussi le cinéma du Caucase. Des excellents films de Géorgie, d'Arménie ou d'Azerbaïdjan, ou bien encore d'ex-URSS, ont été sélectionnés. Notamment les films de Levan Zakharishvili, réalisateur géorgien, décédé malheureusement l'année dernière, et qui offre une plongée dans la Géorgie de l'époque de Chevardnadze, mais aussi à l'heure actuelle. Un regard perçant, touchant et sans concession.
Eh bien, merci à Anna Kubišta, présente à Uherské Hradiště, à l'école estivale du cinéma. Nous terminerons ainsi notre partie de l'émission consacrée à l'actualité pour laisser la place à la vie quotidienne en République tchèque.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
Alors, je suis Martin, j'ai 16 ans et je vais au lycée à České Budějovice. J'apprends le français parce que j'aime la France et je voudrais voyager à la France.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans cette émission, nous quittons la capitale tchèque pour nous rendre dans le sud de la Bohême, plus précisément dans la ville de České Budějovice, Budweis, de son ancien nom allemand. Récemment, avant que l'année scolaire ne se termine, nous nous sommes rendus dans cette ville, mondialement réputée pour sa bière, la Budweiser. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de la mousse ni de l'or de Bohême. Nous irons plutôt à l'école, dans un des collèges de cette cité de 100 000 habitants. České Budějovice n'est qu'à quelques encablures de l'Allemagne et encore plus près de l'Autriche. On pourrait donc penser que les jeunes de la région accordent une priorité à l'apprentissage de la langue du voisin, l'allemand. Pourtant, vous allez l'entendre, ils sont aussi attirés par la langue de Molière.
Nous allons écrire, écrire la biographie de un cuisinier, je pense, le journaliste, hein, je pense. Nous avons lu ça, nous avons lu une histoire.
D'accord. Et est-ce que je peux vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi d'apprendre le français?
Parce que j'aime la France. J'aime beaucoup le français parce que j'étais en France deuxième fois. Et j'aime beaucoup la vie en France.
Et vous parlez déjà allemand et anglais?
Je parle aussi l'anglais et nous apprenons le latin aussi.
Et c'est pas plus pratique d'apprendre l'allemand quand on habite juste à côté de l'Autriche?
C'est possible, mais je pense que l'allemand n'est pas le joli. Le français, plus joli pour moi.
Et vous souhaiteriez étudier en France plus tard?
J'ai réfléchi, je ne sais pas, mais ça dépend. Peut-être, c'est possible.
Dans ce petit collège situé à quelques pas de la grande place centrale de České Budějovice, ils sont quelques dizaines à prendre des cours de français qui sont donnés soit par des lecteurs français installés à České Budějovice, soit par des Tchèques qui ont appris le français et qui veulent transmettre leur savoir. C'est le cas de Petra qui enseigne le français dans ce collège et à l'Alliance française de la ville depuis 2 ans.
J'ai commencé à apprendre le français au lycée déjà et après j'ai commencé à étudier à l'université ici. Donc c'est là où je suis arrivée à České Budějovice, sinon je ne suis pas d'origine d'ici.
Et tu as profité d'échanges entre les deux régions, entre la région de Bohême du Sud et la région de Bretagne?
Non, pas tout à fait. J'ai plutôt profité les possibilités à l'université parce qu'il y avait des possibilités de stage. Donc je suis partie à Paris. Mais il y avait aussi, en même temps, il y avait des possibilités de partir en stage Erasmus en Bretagne. Mais moi, comme j'ai choisi une autre option, je suis partie à Paris. Mais il y en avait ça comme possibilité, oui.
Alors maintenant, tu enseignes le français ici à České Budějovice dans un lycée, je crois, à l'Alliance française aussi. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes tchèques et les jeunes de České Budějovice sont attirés par la langue française?
Il y a toujours des inscrits, donc il y a toujours des étudiants qui demandent le français. Donc évidemment, je crois qu'en général, les gens sont intéressés par l'apprentissage des langues. En général, l'anglais, c'est une nécessité, donc ça, ils connaissent déjà. L'allemand, même aussi par la position de la région, ils étudient ou ils connaissent un peu. Donc je crois que maintenant, ils se tournent vers autre langue. Donc le français fait partie de ça. Et je crois que c'est aussi une langue qui attire, qui peut-être propose une autre chose que l'anglais, voilà. Donc je pense qu'ils sont motivés, hein. Il y en a, certainement, oui.
Et est-ce qu'il y a, on l'a déjà vu à l'Alliance française, dans des établissements comme celui-ci où on est aujourd'hui, le lycée, il y a beaucoup de possibilités d'apprendre le français à des prix relativement réduits ou gratuitement ici?
Alors ici, je vais dire ce que je connais parce qu'après certainement j'ai pas toutes les informations, mais donc il y a l'Alliance française qui est un grand avantage. Là, donc les étudiants peuvent étudier le français. À côté de ça, il y a d'autres écoles de langue, mais les autres écoles ils se spécialisent plutôt vers l'anglais, l'allemand, mais ils essayent de proposer aussi le français, mais c'est plutôt minimal. Et à côté de ça, il y a l'enseignement dans les lycées, donc maintenant aussi c'est très à la mode aussi de proposer d'autres langues, donc même dans les lycées où il n'y en avait pas avant, ça se met en place. Et ce qui est un grand avantage, c'est qu'il y a un lycée belge, pas loin d'ici, donc c'est là aussi où c'est un lycée bilingue, où les étudiants apprennent le français, donc ça c'est genre la grande concentration de l'enseignement du français, je crois.
Est-ce que toi, tu conseillerais à des jeunes Tchèques de se mettre au français?
Oui, bien sûr. Comme je suis prof de français, c'est mon travail, c'est mon métier, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, bien sûr, comme je leur proposerais l'enseignement ou l'étude de d'autres langues, parce que même plus d'autres langues, pas seulement le français, mais le français aussi.
Tu penses que ça peut être utile dans une vie professionnelle, le français?
Oui, je crois que ça ouvre certainement beaucoup de portes avec l'Union européenne et même donc la connaissance de l'anglais combiné avec la connaissance d'autres langues. Oui, c'est un grand avantage, même ça commence à être une nécessité dans le monde du travail, je crois.
Alors le français comme nécessité dans le monde du travail, voilà qui fera bien plaisir à tous les francophones et à tous les francophiles d'entendre ça de la bouche d'une jeune tchèque qui s'est consacrée à l'enseignement de la langue de Molière. Ainsi s'achève cette émission. Je vous retrouve pour un nouveau numéro de la République tchèque au quotidien dans 2 semaines.
C'est la fin de l'émission Langue française que nous avons eu le plaisir de vous présenter comme chaque jour sur les ondes de Radio Prague. Rendez-vous à l'écoute sur les ondes ou le site, mêmes horaires, mêmes fréquences, même adresse, toujours Radio Prague, votre station.
Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.